Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal, présenté par Belinda Bousouma.
À la une, situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Deux réunions se tiennent simultanément aujourd'hui pour statuer sur la question. L'un réunit les pays membres de la CEAC et de la SADC en Tanzanie et l'autre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève en Suisse. Entre-temps, le secrétaire général de l'ONU lance un appel spécial à la paix. Délocalisation de la population par l'entreprise Tenke Fungurume Mining dans le Lualaba. La Commission nationale des droits de l'homme s'est dit préoccupée pour la CNDH. Le montant que TFM propose aux personnes concernées est dérisoire. Et puis, nous recevons Christine Sefou, secrétaire exécutive provinciale du PNMLS dans la Tchopo. Elle nous parle du VIH-Sida qui constitue un véritable problème de santé publique actuellement dans la province de la Tchopo, les femmes enceintes et les jeunes gens les plus affectés. À tous et à toutes, bonjour. Nous sommes à un moment charnière et il est temps de nous rassembler pour la paix. Ce vendredi, les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe participeront à un sommet en Tanzanie. L'accent sera mis sur la crise face à l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. La semaine prochaine à Addis Abeba, je participerai à un sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine où cette crise sera également au centre des préoccupations. Avant ces réunions cruciales, je souhaite lancer un appel spécial à la paix. Ces propos sont du secrétaire général de l'ONU hier jeudi à New York au cours d'une rencontre avec la presse. Alain Rung-Mushinj nous propose un condensé du message d'Antonio Guterres.
Des milliers de personnes ont été tuées, y compris des femmes et des enfants, et des centaines de milliers ont été forcées de quitter leur foyer dans l'est de la RDC. Nous constatons également que d'autres groupes armés, congolais ou étrangers, continuent de représenter une menace. Tout ceci a un impact humain énorme. D'innombrables rapports font état de violences des droits de l'homme, notamment de violences sexuelles et sexistes, de recrutements forcés et d'interruptions de l'aide vitale, dit le secrétaire général de l'ONU. La situation humanitaire à Goma et dans ses environs est périlleuse. Des centaines de milliers de personnes se déplacent, de nombreux sites accueillant les personnes déplacées au nord de la ville ayant été pillées, détruits ou abandonnées. Les structures de santé sont débordées. D'autres services de base comme les écoles, l'eau, l'électricité, les lignes téléphoniques et l'Internet sont très limités. Pendant ce temps, le conflit continue de faire rage dans le sud Kivu et risque d'embraser toute la région. Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie, y compris les casques bleus de la MONUSCO et les forces régionales. Et j'exprime ma solidarité avec le peuple congolais qui se retrouve une fois de plus victime d'un cycle de violence apparemment sans fin. Alors que le sommet de Tanzanie débute et que je m'apprête à partir pour Addis Abeba, mon message est clair, faites taire les armes, arrêtez l'escalade.
Antonio Guterres appelle aussi au respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il dit, je le cite, « Il n'y a pas de solution militaire. Il est temps que tous les signataires du cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC et la région honorent leurs engagements. L'heure est à la médiation. Il est temps de mettre fin à cette crise. Il est temps de faire la paix. » Fin de citation. Toujours au sujet de la guerre dans l'est de la RDC, au Maniema, la fondation Mama Umambo Feruzi Ursula a organisé une messe de compassion et de solidarité en faveur des victimes du Nord Kivu. C'était le mercredi 5 février en la cathédrale Saint-Esprit de Kindu. Pour les organisateurs, c'est une façon pour eux de pleurer tous ces Congolais tués innocemment. On écoute à ce sujet Maître Albati Bendera, assistant du président du conseil d'administration de cette fondation. Il est au micro de Florence Kizalo.
En tout cas, étant que Congolais et ou patriotes, on devrait normalement compatir avec nos frères et sœurs qui souffrent avec les affres de la guerre. Vous êtes sans ignorer, à travers les ondes de radio, nous apprenons qu'il y a eu plus de 3000 morts et c'est insupportable. En tout cas, Mama Omambo Feruzi Ursula, étant aussi chrétienne, il n'y a pas encore d'autre voie qu'elle peut exprimer son indignation ou sa compassion, ou sa solidarité avec toute la population de Goma. Il a plu à la dame de demander une messe en mémoire des illustres disparus et ceux qui sont en souffrance. C'est pour cette raison qu'il fallait prier, demander la miséricorde de Dieu pour qu'il puisse intervenir aussi, intervenir pour réconforter toutes les familles touchées qui sont en état de détresse à ce moment. Aujourd'hui, nous plairons nos frères et sœurs de Goma et tout ce que nous allons demander, c'est que cela ne soit pas d'accoutumance. Nous demandons à ce que la guerre puisse prendre fin parce que cette guerre est en train d'asphyxier les Congolais, de traumatiser les Congolais, de mettre mal à l'aise les Congolais, surtout dans les grands Kivu. Nous sommes plus touchés.
Dans le même registre, le championnat national Ligue 1 reprend bientôt par la manche retour de la phase classique dans les deux groupes A et B, ce malgré la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC. C'est ce qui ressort de la réunion tripartite FECOFA Linafoot Club tenue hier à Kinshasa. Une commission composée des clubs est mise en place pour élaborer le calendrier. Vanessa Kongolo nous en dit plus.
Au cours de cette réunion, la FECOFA a communiqué au club sa décision de reprendre les championnats par la phase retour, selon le président du CONOR, Dieudonné Nsambi, et celui de la Linafoot, Bosco Mwero.
Bon, les équipes de l'Est sont tout à fait d'accord pour reprendre le championnat. Des dispositions sont en cours, des discussions pour voir dans quelle mesure ils peuvent se positionner dans un site ou dans un autre.
Ces équipes de l'Est font toujours partie de la Linafoot. Donc, c'est justement la raison de cette petite commission dans laquelle nous allons nous retrouver pour trouver effectivement de manière pratique comment nous allons nous y prendre.
Pour Loupopo, il faut qu'on passe directement à la phase de play-off, Jean-Luc Capende.
Nous ne voulons pas être piégés. Aujourd'hui, on commence la phase retour et la phase retour se termine sans organiser le play-off où on nous exige que l'on puisse reconduire le classement de l'année passée.
Même point de vue que son rival, le TP Mazembe, héritier Indoula.
Par rapport à la situation actuelle, nous pensons que ce n'est pas possible d'organiser cette phase retour. Mais nous restons solidaires avec nos amis de Goma, des Bukavu qui sont incapables de faire les déplacements à Kindu tout comme à Kinshasa pour jouer leur match.
De son côté, V-Club veut retrouver les terrains selon Amadou Djabi, son président.
La position de V-Club, c'est de continuer le championnat.
Joseph Bahati, représentant de l'Étoile du Kivu, estime que pour l'instant, son équipe est coincée.
Je vous l'ai dit dans les titres, la Commission nationale des droits de l'homme, bureau de représentation du Lualaba, s'est dit préoccupée par la situation des personnes concernées par la délocalisation décidée par l'entreprise Tenkefungurume Mining TFM. Pour cette institution d'appui à la démocratie, le montant que cette entreprise propose aux personnes à délocaliser est dérisoire par rapport au patrimoine qu'ils sont appelés à abandonner à Fungurume. La CNDH Lualaba l'a fait savoir dans une lettre adressée au directeur général de TFM, dont une copie est parvenue à Radio Kapi. D'autres précisions avec le coordonnateur provincial de la CNDH Lualaba, Arthur Kaboulo, au micro de Jean Gandou.
Au mois de janvier 2024, la CNDH Berpé Lualaba avait dénoncé un cas de violation flagrant des droits de l'homme dans les quartiers Mano Mapia à Fungurume. La pollution de la rivière Kelangile par l'usine 30K de Tenkefungurume Mining. Nous avons eu à plaider, on a dénoncé autrefois, l'entreprise a reconnu les faits, on a déclenché le processus de délocalisation de cette population riveraine, moyennant une indemnisation. Malheureusement, cette indemnisation n'est pas à la hauteur de bien des populations qui ont été impactées. Cette population est venue vers nous, c'est alors que ces jours, nous crions encore davantage pour que cette population retourne dans ses droits, qu'il y ait une délocalisation digne et dans le respect des droits de l'homme. Il y a également le cas des personnes impactées par cette pollution, parce qu'il y avait bien sûr des acides toxiques déversés dans cette rivière-là. Ces cas doivent être suivis. La CNDH promet d'installer un point de rapprochement à Fungurume, identifier tous ces cas-là, établir les responsabilités et que l'entreprise qui est responsable, bien sûr, réponde à cette question.
Et puis, l'eau c'est la vie, dit-on. Bientôt, plus de 14 000 déplacés vivant dans le site de Kigonze, dans la ville de Bunia en Ituri, vont être desservis en eau potable. C'est grâce aux travaux d'aménagement des deux puits d'eau potable sur ce site, travaux lancés par l'Office national d'hydraulique rurale. Les travaux financés par le Fonds national des réparations des victimes, FONAREV, vont également permettre de réhabiliter trois autres puits tombés en panne depuis des mois, de quoi répondre à un énorme besoin d'accès à l'eau potable dans les sites des déplacés de Bunia. Reportage signé Sadiq Aboubakar.
C'est depuis plusieurs mois, voire des années, que les déplacés qui vivent dans les différents sites organisés à Bougna font face à un problème d'accès à l'eau potable. Le problème s'est accentué ces derniers mois à cause de la rareté des pluies. Rosine Machozi vit dans le site de Kigonze à la périphérie de Bougna. Témoignage.
L'accès à l'eau potable est un casse-tête dans les sites. Presque tous les pays ne produisent plus d'eau. On est obligé d'aller acheter de l'eau dans les quartiers en dehors du site.
Bye. D'ici à quelques semaines, toute la population du site de Kigonze sera desservie en eau potable, affirme René Luanda, le directeur provincial de l'Office national d'hydraulique rurale. De l'eau, oui, mais sans nourriture, le problème est résolu à moitié, estime cette autre femme déplacée.
J'ai faim, il n'y a pas de nourriture. On prend de l'eau après avoir mangé. Ils doivent également nous donner à manger.
René Luanda explique la capacité de production des puits en cours d'aménagement.
Nous avons déjà exécuté des forages qui ont de grands débits et chacun de ces puits doit nous donner 5 mètres cubes heure.
Signalons que le même besoin est ressenti dans d'autres sites organisés dans la ville. Bougna, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Du côté de Bénéville, pendant ce temps, l'eau s'est fait de plus en plus rare au quartier Bel Air. C'est à cause de l'absence des pluies. 16 000 habitants de ce quartier se partagent l'eau de l'unique forage du centre de santé local. Même situation dans les cellules de Chibo et Sobiedé sur l'axe routier Kasinga-Kididiwe, où les habitants sont obligés de parcourir plus de 10 km pour trouver une source d'eau potable. Les responsables du centre de santé Tungane disent craindre l'apparition des maladies d'origine hydrique. Ils recommandent aux autorités d'aménager d'autres forages dans la communauté afin de soulager les souffrances de la population qui s'expose à l'insécurité en allant chercher l'eau loin de ses bases. Solange Sombe, responsable adjointe et comptable du centre de santé Tungane, explique la situation au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons des difficultés pour trouver de l'eau, puisque dans notre communauté, nous n'avons qu'un seul forage qui alimente plus de 16 000 habitants dans notre aire de santé. Nous sommes en difficulté à ce jour ici de sécheresse. Dans l'hôpital, nous avons le partenaire IMC qui nous a construit un forage pour les malades. Alors la communauté nous arrive pour chercher de l'eau ici à l'hôpital. Or, ce n'est pas bien. Ici à l'hôpital aussi, nous avons difficulté de stockage d'eau. Notre tank a été détruit par un arbre. Ça cause beaucoup de problèmes puisque dans le forage, quand on a puisé beaucoup d'eau, ça s'est tari. Nous recommandons aux autorités de voir comment aider la population de Bel Air à construire un autre forage dans la communauté. Si on trouvait 2 ou 3 forages dans la communauté, le forage qui est à l'hôpital sera épargné du tarissement.
Dans l'actualité aussi, au moins 750 retraités de la régie des voies aériennes RVA ont bénéficié hier des chèques pour leur décompte final. Cette remise symbolique est intervenue au cours d'une cérémonie présidée à Kinshasa par le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, représentant personnel de la première ministre. Le compte rendu de Blaise Ndongala Mayanda.
Le directeur général de la RVA a reçu du maire des ministres, représentant de l'État actionnaire des entreprises publiques, les chèques symboliques de 30 millions de dollars américains. Ce dernier a à son tour remis cette enveloppe au représentant des retraités de la RVA qui a remercié le chef de l'État pour s'être impliqué personnellement dans la réussite de cet événement.
Il a fallu que son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au pouvoir pour que les retraités retrouvent le sourire.
De son côté, le ministre du portefeuille a salué la perspicacité du conseil d'administration et de la direction générale de la régie des voies aériennes. Jean-Lucien Boussa Tongba.
Je viens saluer le dynamisme avec lequel le conseil d'administration, la direction générale de la RVA, a pris la question entre les mains et nous en sommes à une réponse précise, claire.
Le patron du portefeuille a également assuré que la deuxième vague des décomptes finales sera facilement payée grâce à la même stratégie devant permettre d'améliorer la trésorerie de la régie des voies aériennes.
Santé, la maladie du sommeil existe. La population doit participer au dépistage actif chaque fois que les unités mobiles du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine passent dans les villages. Message relayé par le PNELTA à l'occasion de la célébration le 6 février à Kinshasa de la 7e journée nationale de lutte contre la maladie du sommeil. À cette occasion, le ministère de la Santé publique ainsi que les principaux bailleurs et partenaires ont résolu de continuer à lutter ensemble pour l'interruption en RDC de la transmission de cette maladie tropicale négligée d'ici 2030. Détail avec Jean-Désiré Kanyama.
C'est l'explication même du thème choisi pour célébrer cette 7e journée nationale. Unir, innover, agir, éliminer. Mais aussi une réponse à l'engagement vers l'atteinte de l'élimination d'ici 2030. Ce qui est possible au regard de la baisse des nouveaux cas en RDC, dit le représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé.
L'objectif de la feuille de route 2021-2030 est zéro trypanosomiase humaine africaine en 2030.
Parmi les intervenants, DNDA travaille pour développer les nouveaux traitements des soins. Chirac Boulanga est le directeur de l'initiative médicaments contre les maladies négligées.
Nous sommes très satisfaits d'abord pour l'instant. Le protocole de traitement, c'est le fluconazole. Il y a un nouveau traitement prometteur et ça pourra être un médicament qui va vraiment cimenter l'élimination de la maladie de sommeil.
La coordination nationale des renforcements du système communautaire, quant à elle, s'est vœu de renforcer la communication auprès des communautés et partenaires cibles. Étienne Timanga est le directeur technique du CNRSC.
Que nous nous inscrivons dans la perspective de la professionnalisation des acteurs des terrains. Nous allons continuer encore à sensibiliser les gouvernements provinciaux. Pour les assemblées provinciales, il sera question de la promulgation des édits en faveur de la lutte.
L'invité.
Le VIH-Sida est un véritable problème de santé publique dans la province de la Tchopo. Les femmes enceintes et les jeunes gens sont les plus affectés. Pour en parler, nous recevons Christine Sefou, secrétaire exécutive provinciale du PNMLS Tchopo. Elle est avec Jacques Moukonkolé.
Madame Christine Sefou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez de prendre les rênes du programme multisectoriel de lutte contre le sida dans la province de la Tchopo. Quel état des lieux pouvez-vous brosser à propos de cette pandémie dans cette juridiction?
Merci, monsieur le journaliste. Je suis heureuse puisque j'ai trouvé que le paquet VIH est intégré dans toutes les 23 zones de santé qui constituent la province de la Tchopo. De ces 23 zones de santé, il y a 14 151 PVV qui sont soumis sous ARV. De ces 14 151, au moins 65% sont des femmes. Et la prévalence du VIH chez les femmes enceintes est de 4%. Quand nous regardons parmi les 23 zones de santé, 5 ce sont des zones de santé urbaines, donc qui constituent la ville de Kisangani. Et parmi le nombre là de PVV, au moins 70% se retrouvent ici dans la ville de Kisangani et particulièrement dans la zone de Kabondo, Makiso et Tchopo et les autres. Donc c'est Kabondo qui est en tête suivi de Makiso.
Quel est alors le taux de prévalence général au niveau de la Tchopo?
D'une façon générale, c'est à 2,3%.
Et quelle est la place de la Tchopo au niveau national par rapport à ces données?
En tout cas, la Tchopo est parmi les provinces qui tirent les pays en bas, compte tenu des indicateurs. Les activités qui sont menées ici, beaucoup ne se font pas comme il faut, surtout la charge virale et consorts. Et ça fait en sorte que les indicateurs du pays, donc la province, tirent les pays en bas.
Alors, par rapport aux jeunes, quelle est la situation?
Je dirais que les jeunes, en tout cas, la situation est alarmante. Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. La plupart des jeunes, ils ne connaissent pas les modes de transmission et les moyens de prévention au VIH. Pourquoi? C'est puisque la sensibilisation ne se fait plus.
Pourquoi elle ne se fait plus?
Depuis qu'on a arrêté le financement de la Banque mondiale, beaucoup de partenaires faisaient ces activités de sensibilisation. Ils n'ont plus les moyens pour les réaliser. Et nous regrettons surtout pour les médias, les radios et consorts, on n'en parle même pas.
Madame, comment on peut expliquer surtout cette prévalence élevée au niveau de zones de santé urbaines?
Il faut voir la population et la proximité. Vous voyez par exemple le Kabondo, c'est une porte d'entrée. Là qui reçoivent les gens qui viennent des autres provinces, qui viennent de l'Est, et là où nous savons qu'il y a une forte prévalence. La ville aussi est cosmopolite, il reçoit tout le monde. Des gens qui viennent de partout, ils sont là. Et il y a beaucoup d'activités qui font en sorte qu'ils puissent exposer cette population-là à l'épidémie du VIH-Sida.
Les activités minières peuvent aussi y être pour quelque chose.
Bien sûr, vous voyez, quand quelqu'un a l'argent, ça facilite les choses. Alors, on peut se contenter de faire n'importe quoi qui peut vous exposer au VIH-Sida. Il y a aussi le chômage. Le chômage qui entraîne les jeunes à pratiquer donc des activités qui peuvent les exposer. Les jeunes filles sont appelées à faire la prostitution pour avoir un peu de moyens.
Est-ce que les médicaments sont disponibles pour la prise en charge des personnes affectées?
Bon, à ce qui concerne les médicaments et les intrants, en tout cas là, la situation n'est pas bonne. Puisque les réactifs des laboratoires, il n'y en a pas. Et les ARV, nous sommes presque à pré-rupture. Il n'y en a pas suffisamment. Les médicaments pour traiter les infections sexuellement transmissibles, il n'y en a pas. Si on attrape un malade avec une infection transmissible autre que le VIH, on lui donne une prescription.
Par rapport à la prévention, qu'en est-il des préservatifs?
Les préservatifs, il y a petite quantité insuffisante et ça, ce n'est pas bon pour toute une grande province comme celle-ci.
Comment étiez-vous approvisionné avant?
Bien sûr, il y a le Fonds mondial qui est en train d'approvisionner le programme. Pour le moment, ils sont en gel. Donc, ils ne donnent plus les préservatifs. Et les activités sont presque vraiment arrêtées à l'éthargie, là. Alors, nous n'avons pas une autre partenaire qui peut nous appuyer dans ces intrants.
Madame, vous déplorez le manque de moyens pour mener vos activités. Comment alors pouvez-vous renverser la tendance?
Qu'est-ce que nous comptons seulement sur notre gouvernement, puisque le gouvernement doit veiller à la santé de sa population.
Madame Christian, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.